Est-ce que c'est une véritable avancée pour notre société? Est-ce que c'est une bonne loi? 80% des Français, souvenez-vous, depuis l'affaire Marie Imbert, hein, qui a quasiment 20 ans maintenant déjà, 80% des Français étaient mourir, qui était quelqu'un qui a fait ses dernières volontés et qui dit « je ne veux plus souffrir ». Ça a été un vrai combat de société. Il y a une convention citoyenne là-dessus aussi. Alors, de quoi s'agit-il? Puisque ça a été promulgué par le président de la République, c'est la personne pourra s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Bon, si et seulement si le patient ne peut accomplir physiquement le geste, ben le soignant pourra aussi s'en charger. Il faut être majeur, il faut être français, il faut être résident de longue date, il faut avoir une affection grave et incurable, il faut être en phase terminale ou avancée, il faut souffrir de manière insupportable et surtout, il faut être capable d'exprimer son choix éclairé jusqu'au dernier moment. La procédure est alors menée par un médecin qui peut lui-même solliciter d'autres acteurs. Bref, on s'entoure de toutes les précautions. L'aide à mourir programmée, promulguée, est-ce que c'est une bonne loi, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites, Laura?
Moi, je trouve qu'elle arrive trop tôt, dans le sens où il y avait exactement le même principe de texte qui avait été voté sur les soins palliatifs. Le travail n'a pas été fait, il n'est fait qu'en partie. Et on se rend compte de quoi? Que quand les soins palliatifs sont apportés aux patients, les patients ne réclament drastiquement moins, justement, le droit de partir plus tôt. Ce que effectivement, c'est un débat qui doit avoir lieu. Je pense que chacun dans notre entourage...
Il est tranché.
Oui, sauf qu'il arrive trop tôt.
La loi
c'est-à-dire que pour moi, ce texte-là, malheureusement, n'arrive pas pour le bien-être des patients. Il arrive en premier lieu pour pallier à un échec sanitaire.
Les soins
exactement. Moi, je serais d'avis que, effectivement, on a tous été confrontés à ça, mais quand on voit le pourcentage de gens qui ne veulent plus partir une fois qu'ils ont des soins corrects et qu'ils ne souffrent plus, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'effectivement on n'est pas en train de pallier à un échec sanitaire? Pour moi, oui.
Zora.
Alors, j'ai pas vraiment suivi les débats parce que l'aide à mourir, c'est un truc anxiogène. Mais j'ai quand même regardé. Alors, au tout début, j'étais, un petit peu sceptique. Et puis j'ai évolué dans ma façon de voir les choses et je me suis dit voilà, il faut laisser la liberté aux gens de décider de la façon dont ils veulent vivre face à la maladie, au handicap et à des choses qu'ils savent inéluctables. Et ça, c'est important. Individuellement, on peut pas être dans la peau de quelqu'un qui souffre énormément, qui n'a plus de vie sociale, qui est totalement retiré de la société et qu'on voudrait garder en vie, en fait, pour les autres, mais pas pour lui. Donc, en ça, je trouve que l'aide à mourir est une façon de donner de la liberté à ceux qui décident de partir.
Et de la dignité.
Donc, je trouve que c'est un progrès important et il a été confronté à des croyances et à des pratiques religieuses que nous avons les uns et les autres pour certains. Et ça s'est heurté. On se suicide pas, on décide pas de la mort de quelqu'un. Et même moi-même, j'ai été confronté à ce questionnement en me disant, mais en fait, dans la religion, c'est ce genre de pratique, on le fait pas. Et puis, dans une société moderne où on peut se dire que voilà, voir des gens comme ça. Ma mère avait toujours un mot lorsqu'elle était âgée. Elle disait, mais quand on est vieux, on n'est ni mort ni vivant. Et je me dis qu'à un moment donné, est-ce que quelqu'un peut décider lui-même de dire, voilà, en fait, socialement, je suis mort, physiquement, je suis quasi mort, je n'ai aucune activité normale, et donc je décide de partir.
Et je suis malade.
Et donc, je suis malade, oui, déjà.
Oui, c'est justement ce que prévoit la loi, tu vois.
Oui, c'est bien.
C'est bien, c'est une bonne chose.
Non, mais je suis pour. Je suis pour.
À partir du moment où tu rentres dans ce cadre de grave, incurable, phase terminale, avancée.
J'ai été au départ sceptique et que j'ai évolué.
Avant de donner la parole à Emmanuel, je voudrais qu'on écoute Stéphane. Il a un exemple à nous donner, un exemple personnel. Il nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Il est brancardier. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour les élus.
C'est une bonne chose cette loi?
C'est très bien. C'est certainement la seule chose positive que je vais retenir des deux quinquennats du président.
Mmh. Pourquoi?
Moi, j'ai mon père qui est décédé en 2020. Il était atteint d'une maladie incurable, une chorée de Huntington. Un peu compliqué. Il s'est retrouvé placé à 60 ans en maison de retraite, qui était très difficile. Et le Covid l'a totalement achevé. Il s'est dégradé. Ouais. Donc, on a cherché des solutions du côté de la Suisse, à savoir que c'est très cher.
Parce qu'il voulait en finir, c'est ça?
Ah oui, il a toujours exprimé, même avant d'avoir les symptômes. Du moment où il était diagnostiqué, il a dit que les choses étaient claires. Il ne souffrirait pas.
D'accord.
Et la Suisse, comme dit, très cher, le Luxembourg, très long. Et la solution a été trouvée du côté de la Belgique, où ça a été réglé en un mois.
D'accord. C'est-à-dire que s'est-il passé précisément?
Il est parti là-bas en consultation. Le diagnostic était clair, maladie incurable, envie d'en finir. Et voilà. Donc,
Mais du coup, votre papa, il serait pas rentré dans les conditions puisqu'il n'était pas en phase terminale.
Non. Mais je veux dire, la Corée de Huntington, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais
il aurait fallu attendre que la maladie. Bien sûr, il aurait fallu attendre que la maladie se développe et qu'elle le paralyse complètement, quoi, en fait.
C'est exactement ça.
C'est horrible. Ouais,
et puis, il aura enregistré ses directives. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez pu, dans le cadre de la loi, vous l'auriez accompagné à ce moment-là. Mais il voulait le faire avant, avant de se sentir diminué.
C'est pour ça que je trouve que justement,
elle va pas assez loin.
Et que c'est pour ça que moi, je la mets en parallèle avec le manque de soins palliatifs. Elle est là pour régler le problème. On n'a pas assez de soins palliatifs. Ou alors justement, quelqu'un.
Allez-y, Stéphane.
Laura m'a fait bondir un peu parce que les soins palliatifs. Ok, moi je travaille en milieu hospitalier. Les soins palliatifs, c'est bien beau, mais dans des maladies comme ça, il n'y a pas de solution.
Non.
C'est pour ça que je dis que justement, moi, je serais même pour que ce soit plus tôt. Alors, la personne est libre
Stéphane,
de faire ce qu'elle veut à partir du moment où elle est malade.
Reste avec nous, Stéphane, parce qu'on va écouter Emmanuel, et vous avez l'exemple personnel de votre père. Et puis sûr, on aura Marie, qui est infirmière, et qui veut parler des soins palliatifs, justement, Emmanuel.
Bon, c'est un sujet éminemment délicat. Zora l'a exprimé à sa manière. Il y a le problème de la loi actuelle qui vient d'entrer en vigueur, mais il y a surtout les conséquences de cette loi et la porte ouverte de cette loi, parce qu'en fait très rapidement on va changer les conditions vont s'aménager d'elles-mêmes, où on va biaiser et puis ensuite le législateur reviendra à la charge.
Comment tu vas
et on aura des abus.
Où est-ce que serait le biais?
On aura des abus terribles parce qu'il y a la possibilité donc maintenant d'une forme d'euthanasie, et avec les enjeux d'héritage ou tout autre motif, avec tous les gens qui tournent autour des personnes malades, il risque d'y avoir de très très gros abus. Il va y avoir aussi la culpabilisation des personnes âgées ou malades, avec la possibilité donc de cette euthanasie déguisée qui change complètement l'ambiance. Et pour le malade et en lien avec son environnement. J'ai eu un père qui a été hémiplégique pendant 13 ans, de 1987 à 2000. Et évidemment que dans ce contexte-là, alors notre famille, nous n'aurions pas adopté de position pour une euthanasie quelconque. Mais nous l'aurions encouragé si lui avait songé à cette disposition, à éviter évidemment. Mais dans des familles disloquées, dans des familles en conflit, c'est extrêmement grave. Moi, je dirais que c'est énorme ce qui vient de se passer, et que le président Macron, en imposant cette loi, car il en a fait un cheval de bataille personnel, on se demande vraiment pourquoi, parce que pour ajouter une pierre à l'édifice sociétal, que sais-je, a quand même rendu inexcusable son magistère pendant ces deux quinquennats, car cette loi va rester, et toutes les dérives qui vont survenir extrêmement graves pour liquider les personnes, eh bien, ils en auront la paternité, tous ceux qui ont mis en place cette loi.
Marie veut en discuter avec les grandes gueules, elle est dans la Creuse. Bonjour Marie, infirmière aussi. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Est-ce que c'est une bonne loi ou pas alors?
Alors, si on prend de mon point de vue personnel, oui. Si on prend mon point de vue de soignant, oui et non. Dans le sens où on a déjà du mal à accompagner les gens dignement via les soins palliatifs, parce qu'il y a un gros manque, que ce soit au niveau des lits, au niveau des structures. Mmh. Les unités de soins mobiles gériatriques font ce qu'elles peuvent. Comment on va mettre ça en place? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il fallait déjà avancer un peu plus sur tout ce qui est soins palliatifs.
Oui, parce qu'il y a 20% des hôpitaux, je crois, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs.
C'est énorme. Ouais. Donc, oui, ce que je veux dire, dans le cas de la Corée, parce que moi je vais sur des établissements spécialisés, dont certains qui sont précurseurs dedans, de Huntington, en effet, c'est une très bonne chose, si on peut parler ainsi, ce qui s'est passé pour le monsieur et donc son papa. Je comprends aisément, voilà. Pour avoir trois cas de décès de la Corée il y a à peine 15 jours, en à peine une semaine, c'est voilà, et des jeunes. Mais je pense qu'on se voile un petit peu la face. Je ne sais pas si vous voyez où j'en viens.
Oui, je comprends. Donc, c'est-à-dire qu'on s'abrite derrière une avancée sociétale pour masquer un échec aujourd'hui dans les moyens que l'on met à l'hôpital et notamment pour les soins palliatifs. C'est ça. C'est ce que vous dites, Marie.
Qu'il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont, ils
sont performants. Bien sûr, mais avec les soins palliatifs, je suis d'accord qu'il faut les développer, hein, surtout... aujourd'hui, avec une population qui va vieillir, vieillir, je l'espère, le plus souvent à domicile, avec les progrès de la médecine, mais il arrivera toujours un moment où il faudra l'hôpital, une prise en charge, et puis un accompagnement. Seulement, ce qui se passait avec les soins palliatifs, c'est que souvent, on vous appelait au dernier moment. Vous voyez, c'est-à-dire la personne, elle était en soins palliatifs, en fin de vie, vous veniez, on vous disait, bah, il y en a peut-être encore pour quelques heures, et puis, en fait, vous n'aviez pas la maîtrise du soin. Et je comprends, parce que le soin, c'est le médecin. Sauf que là, cette loi, ce qu'elle permet avec la personne, tant qu'elle a sa conscience, c'est vous faites ça en accompagnement, vous comprenez?
Mais dans ce cas-là, tu obliges le patient. Enfin, non. Dans la loi, tu mets en sorte que le patient ait dû avoir du soin palliatif, ce qui aurait permis que ce ne
non,
soit
mais
pas
tu
un
peux,
voile
tu,
caché
tu,
pour
tu peux,
éliminer
tu peux en
encore
parler
le soin
avant
palliatif.
Et la personne peut te dire, voilà, écoute, voilà ce qu'on va faire, puisque maintenant la loi me le permet. Finalement, je décide, avant d'aller en soin palliatif, en fait, au moment où je vais de partir. Vous ouais, en parlez parce qu'avant c'était un peu au bon vouloir du médecin, vous comprenez, qui montait
aussi
la dose et qui faisait partir le patient sans que vous le saviez, sans que vous le sachiez, quoi. Vous comprenez, Marie, ce que je veux dire?
Ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait regarder de près, c'est la rigueur de l'encadrement d'une telle initiative pour lui éviter ces débordements.
Catastrophique.
En fait, c'est ça.
Mais ils ont pas le temps, les médecins, ça va être catastrophique.
Mais regardez, le soin palliatif se porte pas bien du tout. Oui. Et moi, j'ai le sentiment que, en fait, c'est comme quand on rénove une maison. Il y a ceux qui décident de la rénover vraiment, et il y a ceux qui font une rénovation en camouflant.
Ah, mais là,
en fait, j'ai l'impression qu'on fait à chaque fois ça. Et donc, je suis pour. Moi, honnêtement, je trouve qu'on doit laisser la liberté à quelqu'un de dire
mais là,
je suis condamné.
Là, ça le permet.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais vous savez,
allez-y, Marie.
Si je peux me permettre, vous avez aussi ce qu'on appelle les directives anticipées.
Oui, complètement.
Donc moi, par exemple, si vous voulez, je vais vous donner mon exemple personnel, j'ai eu un cancer. Voilà. J'ai fait mes directives anticipées. Bon. Avec tout un protocole, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Bon. Rien n'empêche de faire les directives anticipées et de dire, voilà, moi, je suis plutôt soins palliatifs ou je veux bénéficier. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, complètement. Mais
voilà. C'est pareil, il faut mettre des garde-fous parce qu'une personne...
La loi,
ils y sont, mais ils vont sauter les uns après les autres.
Mais non, ils ne vont pas sauter.
Et demain, on pourra liquider quelqu'un sans motif.
Bah, parce que tu crois que sur les histoires d'héritage, on attend cette loi pour liquider quelqu'un sans motif.
Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas. On peut pas.
Mais non, enfin, les histoires d'héritage, même là, du vivant de la personne, ça a créé des problèmes, ça a créé des mœurs, ça a créé des...
Un héritage n'est
la personne concernée elle-même pourra dire, voilà, ma maladie a avancé, je suis pas encore en phase terminale, mais je suis en stade avancé et je veux faire ça maintenant.
Il faut le faire exactement si tu veux, de la
et
même
c'est
manière,
elle qui, et c'est elle qui décidera. Plutôt qu'à la limite, ça arrive en phase avancée, que t'as un cousin qui arrive au dernier moment et qui dise à la personne concernée,
oui,
écoutez, montez-lui la morphine.
C'est plein de bons
et
sentiments.
Puis on en termine.
C'est plein de bons sentiments, mais l'évolution fera que les garde-fous vont sauter comme des pop-corn les uns après les autres.
Non, mais tu fais comme la carte de don d'organes. Moi, dans mon portefeuille, tu regardes, j'ai ma carte de donneur d'organes. Bah, tu fais pareil, une carte, qu'est-ce que vous voulez? Si dans le cas...
C'est les directives
atteint,
anticipées. Voilà, mais il faudrait que tu aies raison, il faudrait que ce soit sur la carte vitale.
Par exemple. Et comme ça, il n'y a pas de dérive, tu es déjà éclairé. Est-ce que dans le principe, tu préfères, avec la possibilité, une fois que tu es en soins palliatifs, évidemment, de changer, de dire, bon, maintenant, je suis trop fatigué, je veux partir. Mais, de base, qu'est-ce que tu veux? Qu'on te maintienne ou soins palliatifs?
Stéphane et Marie, je vous remercie d'avoir été avec nous. Non, mais tu vois, ça, je trouve que ça serait une bonne initiative,
Alain,
ça, aujourd'hui, de mettre sur la carte vitale, de qu'on mette sur ta carte vitale, précisément, ce que tu veux. On peut tous avoir un accident en sortant du studio. Voilà. Pas d'acharnement. Alors, les dons d'organes, aujourd'hui, il faut mettre ton opposition.
Mais sinon, c'est écrit. Les hackers qui débarquent et qui disent, on a toutes les cartes vitales de donneurs d'organes. Allez! Dès qu'il n'a pas,
on va pas faire découper!
Les produits létaux ou létaux seront dans les pharmacies des établissements. Qui empêchera de les utiliser demain à moyen terme? Personne.
Est-ce que c'est une bonne loi, l'aide à mourir qui a été promulguée? Ça a été un débat là. Merci au 32-16 d'avoir 60% de non, 60-40,
c'est pas mal.
Divisé 60% de oui.
Mais...